présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Pierre. Production. Mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui passent sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Que le temps s'arrêta. Cliff, en cherchant à apprivoiser sa mère, apprivoisait aussi l'idée de sa mort prochaine. Cela lui devenait une chose normale. L'idée qu'il allait mourir lui faisait voir la vie autrement et d'une façon plus mûre. Chaque fois qu'il voyait un vieillard, il se disait « Je ne serai jamais aussi laid. » Lorsqu'il avait des essoufflements, il lui disait « Ce n'est rien, tu sais, je n'ai pas peur. Je suis toujours ton enfant. » Petit à petit, elle aussi s'est mise à accepter l'inévitable et à lui cacher ses peines et se disait qu'il va sûrement mourir. Les plus belles choses ne durent que peu de temps. Les jours, les années passaient. Cliff avait que très peu d'amis. À part son vieil ami Didier qui connaissait depuis toujours. Parce que avec Didier, il était bien. Il pouvait se confier et faire des choses ensemble. Mais l'usine avait confiance en Didier. Était confiante en Didier. Ils avaient le même âge tous les deux et les mêmes goûts. Promenade à vélo, la nature, la lecture. Ils allaient aussi à la même école et dans les mêmes loisirs. Étaient bons élèves, sans plus. Voilà la vie solitaire de Mélusine et de son fils. Le temps a passé. Et Cliff est devenu un bel adolescent. Pour la première fois, il est parti en vacances seul avec son ami. Un après-midi que Mélusine est au salon à lire, on frappe à la porte.
Oui.
C'est la bonne qui entre.
Madame, il y a monsieur et madame Beaulieu qui aimeraient vous voir. Ils vous font vous faire une petite visite.
Mélusine soupire et lui dit.
Bon, faites-les entrer ici.
Bien, madame. Mélusine n'aime pas du tout ces Beaulieu, qui sont des voisins qui ont une propriété près de chez elle. Des gens orgueilleux, nouveaux riches et mal éduqués.
Elle a frappé à la porte. Elle se lève et dit « Entrez !»
Et la bonne fait entrer un homme et une femme. L'homme est grand, sec, visage osseux, barbe et cheveux blonds. Dans les 45 ans, est habillé d'un costume beige clair. À côté de lui, sa femme, grande, blonde, le visage très beau, mais pas très sympathique. Elle a les 43 ans, habillée d'une robe blanche à fleurs bleues. Mélusine s'approche d'eux.
Henri lui dit, j'espère que nous ne nous dérangeons pas.
Vous ne me dérangez jamais.
Elisabeth lui dit, nous sommes dit que cela faisait longtemps que nous n'avions pas de vos nouvelles.
Mélusine lui dit,
je vous remercie, je vais très bien. Et venez vous asseoir, je vous en prie.
Elle les met s'asseoir dans un coin du salon où il y a des chaises devant une table basse. Une fois qu'elle les a fait asseoir, elle est en face d'eux, lui demande
« Vous désirez prendre le thé ?»
Elisabeth lui dit « Nous ne voudrions pas vous déranger !»
Mélusine lui dit « J'allais justement en prendre. »
Elle appuie sur la sonnette qui est sur la table pour faire servir le thé.
Mélusine lui demande « Et comment allez-vous? Avez-vous passé l'été dans la région ?»
Henri Beaulieu lui dit « Surtout pas! C'est trop triste!
Nous sommes allés à Cuba! À Cuba! Sa musique, les gens, les pauvres gens qui n'ont rien. J'avais honte d'être français et d'avoir tout, malgré leur misère. Ces gens sont très beaux, nobles, qui savent vivre. Et sont très dans leur misère. Ils connaissent les vraies valeurs de la vie. Heureux ils sont. Non. Nous leur avons offert toutes les choses de première nécessité. Elle leur a donné de l'argent à profusion. Comment pourrions-nous faire, faire autrement. Ils sont si malheureux, ces gens. J'avais le cœur brisé. J'aurais donné des pourboires jusqu'à 3000 francs. Et il le faut bien. Parce que si on ne leur donne pas, nous ne serions pas émus devant la misère. Et là, nous étions vraiment émus devant cette misère si noble des Cubains. Mais l'usine se dit, voilà, cette année, c'est l'année cubaine. Les pauvres, c'est cette année les Cubains. Ça fait bien et noble d'aider ces gens-là. L'année prochaine, ce sera autre chose. Ils sont émus par les pauvres Cubains et leur donnent sans compter. Mais par contre, ils ne donneraient pas un centime d'augmentation à leurs ouvriers qui crèvent de faim, ni aux malheureux qui sont dans les rues. Non, ce n'est pas la mode. Et puis c'est mieux d'aider les gens des autres pays. On frappe à la porte. Entrez! C'est la bonne. Elle dit, apportez le thé, s'il vous plaît. Merci. Bien, madame. La bonne se retire. Elisabeth demande, et votre fils? Mais il lui dit, il va très bien. Il est parti en vacances avec un ami. Harry demande,
il est de retour?
Elle lui dit, oui, et il doit faire du vélo. Elisabeth lui dit, c'est un garçon charmant. Et il devrait venir vous voir. Votre fille, notre fille serait très heureuse de le voir. Mais l'usine lui dit, il est assez timide. Harry se dit, pourvu qu'il ne soit pas pédé, ce serait terrible.
On frappe à la porte. Entrez. C'est la bonne qui apporte le thé. Sur une table roulante, elle fait le service. Elle leur demande, vous désirez? Elisabeth lui dit, sans rien. Voilà, madame.
Henri lui dit, avec un toit de citron. Merci.
Mais l'usine lui dit,
moi, une goutte de lait. Merci.
Une fois qu'elle les est servie, la bonne se retire. Ils boivent une gorgée en silence.
Elisabeth dit, nous devrions nous voir plus souvent.
Mais l'usine lui dit, c'est-à-dire que je suis très prise, je vis seule. Henri lui dit,
mais vous restez toute l'année ici. Je ne pourrais pas, moi. Heureusement que nous avons notre appartement à Paris. Vous savez que nous sommes reçus chez les Franc-Blancs. Et vous?
L'usine dit, je ne fréquente pas ces gens. Je ne connais pas la nouvelle société.
Elisabeth lui dit, c'est vrai, ici, on ne voit que du vieux.
Que du vieux monde. Mais les gens importants sont à Paris.
Le grand de ce monde, tous ceux qui dirigent sont à Paris. Il faut les connaître.
Les soirées chez les Franc-Blancs, c'est quelque chose.
Et nous aussi, nous sommes quelque chose. Il nous arrive de recevoir des invitations de la Franc-Blanc, parce que nous avons des commandes de Franc-Blanc. Mais Usine demande, « Est-ce vrai que nous allons avoir la guerre ?» Henri lui dit, « Ne vous faites pas de soucis. Grâce à Framblant, nous sommes la plus grande puissance du monde. Et votre fils, que va-t-il faire plus tard ?»«
Je ne sais pas. Et puis, il est encore bien jeune. »
Henri lui dit, « Il devrait, c'est entrer dans une de ces écoles privées d'ingénieurs de Framblant. »
Mais Lysine lui dit, « Oui, peut-être. »
Après avoir parlé de choses et d'autres, en buvant leur thé, ils se sont levés.
Elisabeth lui a dit, « Nous devons partir. Notre fils rentre de vacances. Elle était à Deauville avec des amis. Je suis sûre qu'elle sera heureuse d'avoir la visite de votre fils. Elle me parle constamment de lui. C'est un garçon si charmant et attachant. »
Mais Lusine lui dit, « Je lui dirai merci pour lui. »
Henri lui dit,
« Il peut venir la voir quand il veut. Elle va justement organiser dans le parc une de ces petites choses que l'on appelle chez nous des pique-niques et chez les gauchistes des repas de quartier. Bien sûr, ils n'ont pas le parc, alors ils font ça sur la place du quartier. Malgré que notre fille a des idées très avant-gardistes, je vous promets que la chose est tout à fait correcte et de bon goût. Bien sûr, nous invitons le fils du jardinier pour faire social, mais rien de plus. Je vous promets qu'on ne chantera pas l'international, que notre chère Arlette. Vous savez que dans les salons parisiens, l'on parle de plus en plus du rapprochement très intime d'Arlette avec Pierre Max. Ce serait l'union du siècle. Les deux extrémités qui se rejoindraient. Vous le savez.
Mais Lusine lui dit, non, moi Arlette, Pierre Max, je ne vois pas.
Elisabeth sourit, lui dit, ma pauvre amie, il faut sortir ou écouter Radio Pixel, une nouvelle radio très bien. Mais ce qu'on trouve, c'est que l'on passe un peu trop à longueur de journée du David Bowie. C'est un peu démodé et d'un goût plutôt douteux lorsqu'il avait les cheveux rouges. Oh là, non! Vous connaissez David Bowie?
Mais Lusine lui dit, non, c'est un de ces jeunes qui se tortille et crie, vous savez, moi, par Mozart.
Elisabeth lui dit, ma pauvre amie, il faut sortir. Vous devriez, c'est venir. Vous savez, nous connaissons tout sur Paris et les grands de ce monde. Vous n'auriez plus besoin, c'est de les voici. Allez, je vous embrasse tout de même.
Mais Lusine s'est laissée embrasser furieuse, en se disant que l'autre la prend pour lui toquer.
Au revoir, au revoir, au revoir.
Une fois qu'ils sont partis, elle respire. Elle ne dira pas à son fils d'aller chez eux, même pas pour voici. Les filles qui doivent être là-bas doivent être tout aussi toquées qu'elle. Et puis sa fille doit être tout aussi toquée que ses parents. Elle hausse les épaules et dit,
« David Bowie, Arlette, Pierre Max, les Framblants, qu'est-ce que tout ça ?»
Les Beaulieu, une fois qu'ils sont entrés dans leur Rolls blanche, ils disent au chauffeur, de mettre la voiture en route, Henri dit à sa femme furieux,
« Pourquoi tu l'as traitée comme ça ? C'est pas une rien du tout, elle est plus noble que nous. Par ta faute,
elle refusera nos invitations. Et moi, je tiens à ce que son fils se marie avec ma fille.
Elle lui dit, pourquoi? Est-ce que je dois être aussi arriéré qu'elle?
Eh bien, mais il y a un nom. Et quel nom? Cela nous l'oubliera. Tu oublies, c'est que tu étais serveuse dans un café. Et moi, je vendais sur les marchés du poisson. Nous avons fait fortune, mais il faut nous anoblir avec la plus vieille famille du coin, tu comprends?
Elle lui dit, oui, mais quel toqué! Elle est au courant de rien et écoute du Mozart.
Cliff n'est pas au courant que l'on cherche à le marier. Sa mère ne lui a rien dit. Et puis, il est bien jeune. Il ne cherche pas à avoir de petite amie. Quoique les filles du lycée le regardent et le trouvent mignon. D'ailleurs, comment ne pas trouver mignon ce si joli garçon? Mais pour le moment, Cliff reste dans le monde de l'innocence et de l'amitié. Il a son ami Didier et ça lui suffit. Et puis, son avenir est très court. Les Beaulieu sont des industriels. Ils ont une usine d'armement et de robotisation. Il leur arrive de travailler en sous-traitance pour Franc-Blanc. Il aimerait s'agrandir, devenir plus puissant. Et surtout, aller avec sa famille aux soirées Franc-Blanc. Mais on le dénigre. On dit que ce n'est qu'un arriviste. Ça lui fait mal d'entendre ça. Il y a sa femme, les Franc-Blanc, eux aussi sont des arrivistes.
Mais ce ne sont que des simples maçons, eux, mon Dieu.
C'est pour ça qu'il cherche à marier sa fille, pour anoblir sa famille, et être plus noble que les Franc-Blancs. La fille, Florence Beaulieu, est encore très jeune. Elle est grande, mince, blonde, visage très rêveur et doux. Elle est étudiante. Ses parents ne font que lui parler de Cliff. Elle le connaît un peu. Et par les articles de Voici, mais Cliff et sa mère ne font pas partie du grand monde. Mais malgré tout, on les voit de temps en temps dans les articles. Et Cliff est présenté comme un petit prince solitaire à visage romanesque. Florence rêve à lui, aimerait bien le rencontrer. Mais ses parents ont beau lui dire qu'il viendra la voir, elle ne voit rien venir. Lui, Cliff, ne sait rien de tout ça et prépare sa rentrée scolaire. Lui et Didier reçoivent des invitations pour une soirée organisée
par des jeunes filles du lycée. Décide d'y aller parce que ça ne fait pas bien de ne pas y aller.
Demande l'autorisation à sa mère et lui dit « Bien sûr, mais ne rentre pas trop tard et fais attention à toi. »
Elle lui dit « Ne fais pas de soucis. Je serai avec Didier et puis ce ne sont que des gamines. »
Il embrasse sa mère
et lui dit « Tu es la seule femme dans ma vie. »
La soirée se passe dans l'hôtel particulier qui se trouve dans la vieille ville. C'est un vieil hôtel de la Renaissance qui est sur les hauteurs près des remparts. Et la soirée se déroule dehors devant la maison. Sur la pelouse. Tiff et Didier y sont allés en vélo. Il y a de la musique, le parc est illuminé, il y a des tables pour le buffet, des disques qui tournent, quelques jeunes gens et jeunes filles qui rient, se courent après, dansent en s'embrassant. Ils ont entre 15 et 18 ans. Habillés simplement, de pull, chemise, des pantalons noirs. Pour les jeunes filles, des robes d'été. C'est sympathique. Et on boit du jus de fruits. Lorsqu'ils arrivent, une jeune fille accourt à eux. Elle est rousse, très belle dans les 16 ans, habillée d'une robe d'été blanche. Et leur dit,
vous voilà, suis-je heureuse. J'étais sûre que vous n'alliez pas venir. Allez, venez.
Et les embrasse et leur dit, allez, venez. Elle les mène au centre et les présente. Puis une fille blonde de 17 ans en robe bleue va vers Didier et lui demande, tu veux faire danser? N'ose pas dire non. Tu ne peux pas refuser de faire danser une jeune fille. Clip se retrouve seul avec la jeune fille. Elle lui dit,
ça fait longtemps que je cherche à te parler. Tu as l'air si lointain.
Mais ça avait non.
Elle lui fait, alors, embrasse-moi.
Et il l'embrasse sous la joue.
Elle lui fait, dansons.
Clip se prend au jeu. Il est fier que jeune fille lui court après. Il danse. D'autres jeunes filles viennent et demandent à danser avec lui. Les jeunes filles en dansant se plaquent contre lui et mettent leur tête sur sa poitrine. Cliff est heureux et fier. Au cours de la soirée, des jeunes filles font un jeu. C'est de savoir si Cliff reconnaîtra la fille qu'il embrasse. On lui bande les yeux. Et les filles se mettent à l'embrasser une à une. Cliff rit et ne trouve pas. Elle rit aussi. Une fille lui déboutonne sa chemise et lui caresse le torse. Didier voit ça et furieux. Cliff se laisse faire. La fille le caresse de partout. Puis pour rire, décide c'est de déshabiller et de le mettre en robe. Cliff essaye de se défendre. Mais elles sont plus nombreuses et les yeux bandés.
soit déshabillée, une fille veut lui essayer de retirer son caleçon. Liv rit. Et tout d'un coup, il est essoufflé, ne peut plus respirer et tombe à terre. Liv accourt à lui.
Des filles lui demandent, mais Katine,
il ne faut pas le brusquer, il est très fragile. Il se penche et soulève Liv. Il va le mener à la maison. Là, on le pose sur un canapé. On lui enlève le bandage. Liv reprend ses esprits.
Je m'excuse, j'ai paniqué.
Les filles sont émues. Et elles sont encore plus émues de voir ce petit prince fragile comme du cristal. Il a honte de sa faiblesse, mais il sait qu'il n'est plus rien. Il s'aperçoit que sa faiblesse le rend plus touchant pour les autres. Une jeune fille lui apporte un verre de cognac. Il est lui.
Cela fait le temps qu'il doit rentrer. Il commence à se faire tard. Oui, tu as raison.
Il essaie de se lever, mais a des difficultés.
Didier dit, je crois qu'il faut retenir, c'est d'appeler un taxi.
La jeune fille lui dit,
pas la peine, on trouvera bien un garçon qui va le ramener en voiture.
Il trouve un jeune homme pour les ramener en voiture. Le vélo est mis sur le toit de la voiture.
Cliff a été ramené le premier.
Merci.
Sort de voiture. Didier l'aide à prendre le vélo. Et ils entrent dans la propriété.
Stupidité, d'être comme ça.
Didier lui dit, je croyais que tu te sentais plus fort depuis mon triomphe.
Cliff lui dit, je le croyais depuis le lac. Je me sens plus vraiment moi-même. Je fais des rêves étranges où je suis au milieu d'une foule qui crie, qui se bat. Ils ont des visages horribles, ils sont habillés d'une façon étrange. Ce qu'il y a de bizarre, c'est que je me sens, enfin je les trouve normales et que je me sens bien près d'eux. Et que j'aime, ce sont cette vie d'un autre âge que j'aime. C'est comme si je n'étais plus moi-même, comme si une autre personne était en moi. C'est étrange, difficile à dire. J'ai l'impression que l'âme d'une autre est entrée en moi. Je le sens par sa fureur, sa fougue et aussi sa mélancolie parce que je me sens mélancolique sans savoir pourquoi
Et puis j'ai des désirs étranges, comme si quelqu'un m'appelait.
Il dit, tu penses trop. Ton imagination te fait croire à des choses. Tu rêves. Et tu dis, je te dirais, c'est que l'autre qui est en moi est attiré par toi. Il a de la fiction pour toi. Comme si tu représentais pour lui quelque chose. Ou quelqu'un. Il lui dit, c'est gentil. Et ça... C'est la preuve que tu as de l'amitié pour moi. Ça me touche beaucoup. Ils arrivent devant la maison, vont mettre les vélos au garage. Et Didier lui dit, bon, eh bien, salut, à demain. Repose-toi. Il lui dit, merci, à demain. Ferme la porte derrière toi. Cliff entre dans la maison endormie. Il monte à l'étage pour se coucher. Dans sa chambre, il se déshabille. En se disant que les filles ont fallu le violer. Il voit qu'il a à son talon droit une petite tache rouge. Ce temps à Paris. Jeanne Neff se prépare à sortir de son hôtel particulier pour aller à une soirée chez des amis. Elle est habillée. Une robe du soir longue, moulante, blanche. Sur ses épaules, elle a une petite cape blanche, avec des plumes d'autruche blanche. Son mari, Pierre Neff, est un homme grand, maigre, tête osseuse, un peu autoritaire, est habillé d'un smoking noir. Très élégant. Ils sortent de leur hôtel particulier. Qui se trouve dans le Marais. Un bel hôtel du 18e siècle. Descendent les marches du perron pour aller à la cour où se trouve la Rolls noire. Le chauffeur est devant la porte, habillé en chauffeur. La cour est pavée. Il y a une fontaine. Il y a une fontaine où un lion, gueule ouverte, il sort de l'eau. Le chauffeur ouvre la portière de la voiture, il s'y engouffre, et le chauffeur met la voiture en route. Et sortent de la cour par un passage en ogive. Pierre dit à Jeanne,
tu es ravissante ce soir.
Merci.
Tu feras impression chez les Laval. Ils auront l'ambassadeur de France d'Amérique qui est en congé à Paris. Il vient de se faire opérer de l'appendicite chez Riquin.
Elle lui demande,
Hé, je dois faire attention à quoi ?
Il lui dit,
à rien. Je te préviens comme ça pour que tu le saches, pour éviter que tu fasses des impairs. Évite de parler politique à un ambassadeur. Il n'aime pas la politique. C'est un homme frivole et qui doit être pour plaire à tous.
Elle lui demande, il s'appelle comment ?
Je ne vois Denis.
Jeanne se moque de ce que lui dit son mari. Elle s'ennuie à mourir. Elle n'a rien à faire et son mari est très ennuyeux.
Même Paris avec lui est ennuyeux. Et que de mondanité. Rien et ennuyeux. C'est pire que dans mon domaine dans le pays de Loire. La même vie, mais en pire.
Et je demande pourquoi elle s'est mariée avec lui. Et en plus, il a fallu se demander une dispense. Parce qu'ils sont cousins.
Cousins. Son cousin.
Parce qu'étant enfant, il l'avait trouvé. Bien troublé. Bien sûr, c'est un garçon.
Avec Paul Recourtois, ça n'allait plus. Il était devenu irritable.
Il disait que c'était à cause d'elle que son enfant, il ne l'avait plus.
Pauvre Paul. Il était touchant et en même temps irritable avec son désir de paternité.
Il se dit, tiens, nous arrivons, la voiture va s'arrêter. Déjà.
Le chauffeur leur ouvre la portière.
Ils sont arrivés devant une maison à Versailles avec un grand parc piscine. La maison est 2 étages, moderne et toute blanche. Les soirées se passent dans le parc. Il y a un orchestre, buffet, serveurs qui vont et viennent. Tout est illuminé, il y a du monde en tenue de soirée. Ils entrent dans la propriété. Jeanne se dit qu'elle va s'ennuyer à mourir. Si son mari au moins pouvait lui permettre de s'amuser. Les Laval qui les voient vont les accueillir. Ce sont 2 vieilles personnes à cheveux blancs, minces et distinguées. La femme porte une robe noire moulante. Le mari est industriel et fabrique des composants pour les affrants blancs, pour leurs robots et ordinateurs.
Marie dit, merci d'être venue.
La femme dit à Jeanne,
vous êtes très belle, ma chérie.
Elle la prend par le bras et lui dit,
laissez ces messieurs discuter. Venez, je vais vous présenter à mes invités.
Et elle présente Jeanne à 2 vieilles femmes excentriques et laides. Jeanne s'ennuie à en mourir. Il y a même une espèce de folle à tête de cheval et une robe verte, et d'un énorme boucle d'oreille pendante en or. Elle lui dit,
je cherche Jacques. Je ne sais pas où il est. Sa mère m'a dit de le surveiller. Vous savez, les hommes avec leur retour d'âge, ils sont comme qui dirait s'ils avaient la bouche en pause, si vous voyez.
Je ne comprends rien à tout ça. Elle demande,
mais
je ne savais pas que les hommes aussi. Le folle lui dit,
oh, mais oui, bien sûr.
Jean lui demande,
mais il a quel âge? Je ne sais pas au juste. Je l'ai connu tout enfant et depuis nous ne quittons plus. Ce cher ange. Mais maintenant, il est à l'âge presque mûr.
Jean lui dit,
et sa mère vous demande de le surveiller? Oh, mais bien sûr, elle a confiance en moi.
Jean se dit qu'elle est ok.
Jacques, Jacques, où es-tu, mon chéri?
Elle s'éloigne. Jean se trouve seul. Son mari a trouvé pour discuter avec le maître de maison. Pour lui, une soirée, c'est discuter à faire. Elle voit arriver à elle un homme dans les 25 ans. 27 ans, grand, mince, de visage sympathique et beau. Il est blond, avec des yeux bleus, perçants. Il porte un smoking noir, s'approche d'elle, les mains dans les poches et lui dit, bonsoir. Elle est prise par son charme. Bonsoir. Il lui fait, vous ennuyez, n'est-ce pas? Elle lui dit, je m'ennuie même beaucoup. Je suis Denis Genevois.
Et moi, Jean-Neuf. Vous êtes, je crois, l'ambassadeur de France en Amérique.
Oui. Oh, si peu. Je préfère se m'occuper de plaire aux femmes. Et vous en êtes une.
Merci.
Il la regarde bien et pris par cette belle femme. Et il demande,
vous aimez voyager?
Elle lui demande, pourquoi?
Parce que j'ai à faire un voyage.
Mais j'ai mon mari.
Je suis sûr qu'il ne s'occupe pas assez de vous.
Elle est surprise et vexée. Elle lui demande.
Mais qu'est-ce que vous en savez?
Il lui dit.
Semblez vous ennuyer.
Je vous mets danser.
Elle lui dit.
Oui, mais ce que vous m'avez dit m'a irrité. Il l'a fait danser. En dansant, il sent son corps contre elle. Elle aime les hommes qui la trouvent. En dansant, qu'est-ce que vous diriez d'une vie d'aventure avec moi?
Mais j'ai mon mari.
Il lui dit, un petit français de rien du tout. Avec moi, la vie sera où? Qui est votre mari?
Celui-là,
en lui montrant. Il lui dit, c'est bien ce que je pensais.
Et lui dit, les propriétaires, terriens.
Il rit. Après avoir dansé, il prend la main et lui dit, venez.
Il mène dans un coin de ça.
Un peu à l'écart, l'embrasse sur la bouche. Est tombé à terre et il soulève sa robe.
vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Guerre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.